Romains chapitre 3, du verset 1 au verset 19. Depuis début janvier, on étudie la semaine après semaine cet épître aux Romains. Et depuis début février, on ne parle que d'une chose, le péché. Vous avez hâte d'arriver à Pâques. Oui, à le pardon. Mais c'est pas moi, hein, c'est Paul. Hein. C'est Paul qui a insisté tellement. Et je crois que ce n'est pas surprenant. Parce que c'est peut-être le thème le plus difficile dans ce sens dans la Bible. Admettre que l'on soit pécheur. Mais tant qu'on n'a pas admis cela, bon, il n'y a pas d'accès non plus au salut. Parce que le salut, c'est la réponse. Donc, Paul insiste lourdement là, sur cela. Et donc, si on va un petit peu plus loin, je fais un petit peu le résumé de ce qu'on a déjà vu. Parce que Paul a démontré tour à tour, d'abord, le péché flagrant du monde païen, donc ça c'est le chapitre 1, où il y a une liste, une longue liste de péchés. Ensuite, il a parlé de, on va dire, de l'hypocrisie des moralisateurs, en disant que, voilà, si je le mets en des termes un peu plus modernes, nous on croit là aux valeurs de la République. Mais si on peut employer quelqu'un au noir, on le fait quand même. C'est à peu près ça. J'exagère à peine, hein, parce que j'ai entendu ça cette semaine déjà. Donc l'hypocrisie de ceux qui disent « Oh, nous on n'est pas comme ça, mais par derrière, on est quand même un petit peu. » Et la troisième chose, c'était l'insuffisance morale des Juifs qui avaient été chargés en quelque sorte d'enseigner la loi de Dieu. Et Paul dit, mais toi qui dois enseigner, mais tu fais le contraire de ce que tu enseignes. Donc, pour anticiper, on n'est pas encore là, mais c'était Romains 3, 23, tous ont péché. Donc, il montre cela en long et en large. Et ce matin, on va lire donc ce chapitre 3. On a déjà commencé un petit peu la semaine dernière, les quatre premiers versets, mais revenir là-dessus. Et après, à partir de la semaine prochaine et à partir de Pâques, il y aura la bonne nouvelle. Et on continue pour le moment avec la mauvaise nouvelle. Alors, je lis donc ce texte. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Et loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. faut dire que dans ce texte, il y a apparemment une contradiction. D'abord, au verset 1, Paul pose la question, quel est l'avantage des Juifs? Il y répond, il est grand à tous égards. Puis au verset 9, il dit, nous les Juifs, ça c'est la version du Semeur, nous les Juifs, sommes-nous supérieurs aux autres hommes? Pas du tout. C'est lequel? L'avantage du Juif est grand de tous égards, ou les Juifs ne sont pas supérieurs aux autres d'aucune façon. Donc, a priori, on va dire qu'il y a une contradiction. Mais, en fait, il faut se dire, de quoi parle-t-il? Donc, on va voir d'abord la réponse au verset 1. C'est un privilège, en quelque sorte, d'être juif, parce que, et on va revenir à ça tout à l'heure, parce que Dieu leur a confié les oracles de Dieu. Ils ont reçu la révélation de Dieu. Par contre, ce n'est pas un privilège dans le sens où il n'y a pas de favoritisme. Donc il faut savoir de quoi on parle. Et justement, Paul va répondre à ces questions-là dans les versets qui suivent, mais c'est bien déjà de voir que, dans un sens, c'est un privilège d'être juif, mais dans un autre sens, ça ne l'est pas du tout. Historiquement, c'est un privilège, parce que Dieu avait choisi ce peuple, il leur a confié ses oracles. Mais comme moyen de salut, ils ne sont pas privilégiés par rapport aux autres. Donc vous voyez ce que je veux dire, ok? Alors, regardons cela, et au verset 1 à 8, donc mon intervention ce matin va être en deux parties. La première partie va être un petit peu plus technique. Donc si vous n'avez pas assez dormi, pendant un petit 10 minutes, et je vous réveille après. Non, c'est un peu technique au début, et après on va essayer de prendre un petit peu de hauteur pour voir vraiment le sens de tout cela. J'ai écouté d'ailleurs un message il y a plusieurs mois sur ce texte, où l'orateur avait dit, en citant d'autres personnes, que ces quelques versets au début du chapitre 3 sont parmi les plus difficiles de toute la Bible. Donc, je vous préviens. parce qu'en fait, Paul, il va très vite. Donc, il faut essayer de comprendre. Donc, ça va être un petit peu technique pendant quelques minutes. Et après, on va essayer de tirer les conclusions. Donc, c'est comme un dialogue avec les Juifs, ou avec un Juif imaginaire, ou des Juifs imaginaires, ou peut-être, à la limite, avec lui-même. Avant sa conversion, c'est le genre de questions qui se posaient. Et on appelle ça, on appelait ça à l'époque, une diatribe, ça veut dire une sorte de conversation philosophique. Les stoïciens utilisaient cette méthode-là, on en parle à l'étude biblique, dans Acte 17. Alors là, je ne me suis pas trompé, quand Paul était à Athènes. Donc, avec des stoïciens, ce genre de dialogue pour faire avancer la réflexion. Et ici, Paul se lance dans ce qu'on appelle donc une diatribe, dans le sens du genre littéraire de l'Antiquité. Et il va répondre à quatre objections qui lui sont opposées par rapport à sa prédication. Et puisqu'il avait parlé aux Juifs, il avait dit que les Juifs, il fallait qu'ils soient circoncis de cœur, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, que le Juif, pas plus que le païen, n'était parfait aux yeux de Dieu. Mais là, il y en a qui commencent s'opposer à Paul, qui s'était agacé par ce genre de raisonnement, donc il y avait des objections. Et Paul va répondre à quatre questions. Donc, première question. Alors, Paul, quel est l'avantage d'être juif? Si on n'est pas meilleur, quel est l'avantage? Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, cette question de privilège. La réponse, en fait, c'est nous, et je vous mets nous, parce que Paul était juif lui-même, n'oublions pas, nous avons reçu les oracles de Dieu. Verset 2, il est grand, donc cet avantage de toute manière, et tout d'abord, parce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. On peut dire que c'est fondamental. Le judaïsme et le christianisme qui en est sorti sont, on dit des fois, des religions du livre, parce qu'il a fallu la révélation. Sans la révélation, on ne pourrait pas avoir les réponses à nos questions. C'est fondamental. Si je vous pose la question, par exemple, qu'est-ce que j'ai dans ma poche gauche? Vous pourriez peut-être deviner, peut-être que statistiquement, vous auriez raison. C'est pas étonnant, il y a une clé de voiture, un stylo. Ouais, comme coiffé. Voilà, donc vous pourriez peut-être deviner, mais vous n'aviez pas de certitude. Et il y a des choses que nous ne pourrions pas savoir en tant que petits êtres humains. Hein. N'oublions pas, on ne fait même pas en général 2 mètres de haut, et pas plus de 120 ans au maximum. Hein. Comment pourrions-nous connaître le sens de l'univers tout entier? D'autant plus que l'être humain a tourné le dos à Dieu. Le péché est venu. Donc sans révélation, on ne peut pas savoir. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de contradiction entre la raison humaine et la révélation. Parce que la raison a des limites. Et les limites, c'est les limites de notre cerveau par rapport à l'immensité de l'univers et du pourquoi des choses et de l'invisible. Donc il faut qu'il y ait révélation. Et Dieu a choisi de se révéler progressivement à un homme, à Abraham, à un peuple, par Moïse, etc. Et comme ça, les Juifs avaient reçu la loi, les prophéties, les autres écrits, les psaumes, etc., comme révélation de Dieu. Donc, je peux citer deux versets de l'Ancien Testament par rapport à cela, le psaume 147, les versets 19 et 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Donc les autres nations ne connaissent pas. Ou comme Deutéronome 4, 8. Deutéronome 4, 8. Qui dit ceci. Quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui? Donc c'était un grand privilège. Et on peut dire que, historiquement, les Juifs ont veillé à ce que cette révélation soit transmise de génération en génération par les scribes, les copistes qui ont copié les textes avec énormément de rigueur. Donc je me souviens de quelqu'un qui m'a expliqué une fois, un expert, un spécialiste, que dans l'Antiquité, quand il copiait le texte, admettons un psaume ou quelque chose comme ça, qu'il comptait le nombre de mots, il savait combien de mots qu'il y avait dans le psaume, et il comptait jusqu'à la moitié des mots, et s'il ne tombait pas sur le mot qu'il fallait, ils ont dit, il y a une erreur quelque part, on détruit le texte. Et non content de cela, si le mot était au milieu, ils savaient combien de lettres ils recomptaient jusqu'au milieu. Et si ce n'était pas la bonne lettre, ils détruisaient le manuscrit parce qu'il y avait une erreur. Donc c'était à quel point ils veillaient sur la bonne transmission. Et c'était donc un privilège. Donc Paul répond, on a le privilège d'avoir reçu les oracles de Dieu. Deuxième question. Paul, ton enseignement porte atteinte à la fidélité de Dieu. Que certains soient infidèles ne change rien pour le peuple entier. Donc c'est une question de dire que, voilà, tu nous accuses d'être pécheurs, mais on n'était pas tous pécheurs, on n'était pas tous logés à la même enseigne. Dieu reste fidèle à son peuple. Et là, Paul dit, dans ce sens, Loin de là, oui, Dieu reste vrai. Dieu reste fidèle. C'est vrai. Il y a une petite allusion au psaume 116 et le verset 11. Le psaume 16 et le verset 11 qui dit ceci. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Voilà, on le retrouve au verset 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Et je pense qu'il est intéressant aussi de se rappeler Nombre 23, verset 9. Verset terrible. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Donc, autrement dit, ce qui caractérise un être humain, c'est qu'il est menteur. On ne sait pas quand il dit vrai. J'ai un petit problème avec mon ticket de métro. Je me suis présenté à plusieurs guichets pour dire, on ne peut rien faire. Hier, je me suis présenté à un autre. Il dit, mais ils ont dit, bien sûr qu'on peut faire quelque chose. Il m'a donné la façon de le dire. Donc, à quel moment on dit vrai, à quel moment on ne dit pas vrai? On ne sait plus. L'homme est menteur. Mais Dieu reste vrai. Dieu reste vrai. Et j'ai marqué aussi le psaume 51, verset 6, qui est cité ici. Dieu reste vrai, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Donc n'oublions pas que le psaume 51, c'est le psaume où David confesse son péché. Donc il dit, malgré tout, Dieu reste pareil, Dieu ne change pas. Donc Paul, par son enseignement, ne porte pas atteinte à la fidélité de Dieu. Il est en train de dire que le peuple élu, Israël, les Juifs, n'étaient pas restés fidèles. Mais on ne remet pas en question la fidélité de Dieu. Dieu reste fidèle. Et il ne va pas se renier parce qu'il ne peut pas renier la vérité. Donc Paul ne change pas fondamentalement la révélation. Il dit un peu plus tard, d'ailleurs je crois que c'est au chapitre 7, on y arrivera, que le problème n'est pas la loi de Dieu. Le problème, c'est l'être humain qui n'arrive pas à le mettre en pratique. Donc c'est pas, Paul ne remet pas en question le caractère de Dieu. Troisième question de cette diatribe. Paul, ton enseignement met en cause la justice de Dieu. Comment ça? Verset 5. Si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Est-ce que Dieu est donc injuste quand il déchaîne sa colère? Paul est obligé de dire, entre parenthèses, je parle à la manière des hommes, parce qu'il a peur que les gens croient que c'est lui qui dit ça. Il dit non, notre injustice... Enfin, en quelque sorte, les gens sont en train de dire, mais si je suis pécheur, ça permet de mieux voir la justice de Dieu. Comme si, par exemple, il y a du blanc qui va mettre en valeur le noir, par exemple. Parce qu'on voit la différence. Si c'est comme ça, pourquoi Dieu déchaîne-t-il sa colère? Parce qu'en fait, par mon péché, je révèle la justice de Dieu. À la limite, ce n'est pas de ma faute, mais Dieu, on le voit mieux dans sa justice, dans sa perfection. Et Paul dit, loin de là. Car Dieu ne serait plus juste s'il ne jugeait pas le mal. Il est obligé de juger, il est obligé d'intervenir, autrement sa justice serait mise en cause. Verset 6, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Je vais vite, je ne vais pas développer tout cela, c'est un peu technique, mais je crois que les Juifs comprenaient assez rapidement, parce qu'ils étaient beaucoup plus, je veux dire, versés dans ce genre de raisonnement que nous. Quatrième argument, mais Paul, ton enseignement nous conduit à justifier le mal, en fait. Parce que la fin justifie les moyens. Bon, ça, c'est une expression qu'on utilise encore aujourd'hui. La fin justifie les moyens. Alors, quelle est la fin? Que Dieu soit glorifié. Quel est le moyen? Il est glorifié parce que nous sommes pécheurs. Et donc, quand, par exemple, il nous pardonne, admettons, il est glorifié parce qu'on voit mieux sa perfection par rapport à mon péché. Il a toujours été compris, mal compris, et il avoue au verset 8. Pourquoi, comme quelques-uns le disent, quelques-uns qui nous calomnient, ils prétendent que nous disons, nous devrions faire le mal pour qu'il en arrive du bien. Le mal, c'est le péché, le bien, c'est le pardon, c'est le sacrifice de Jésus. Alors, plus on fait le mal, plus Dieu est glorifié. Non, mais c'est là, cette fois-ci, Paul ne répond même pas. Cette fois-ci, il dit, la condamnation de ces gens-là est juste. Et juste avant donc de revenir, de prendre un peu de hauteur, jusque-là, c'était un peu technique, je ne sais pas si vous l'avez entendu, moi, à plusieurs reprises, les gens qui disent, « Ah, mais votre évangile, c'est trop simple. » Vous faites ce que vous voulez, puis après, vous demandez pardon, et puis c'est bon. Les gens le disent assez souvent. Si on discute surtout avec ceux qui pratiquent un peu une religion, que ce soit certains catholiques, que ce soit les musulmans, etc., ceux qui sont qui cherchent une certaine intégrité par l'obéissance, ils vont dire la grâce ouvre la porte à n'importe quoi. Dans le film, c'est un assez vieux film maintenant, l'évangile de, selon Matthieu, de Pasolini, à un certain moment, le réalisateur imagine une discussion entre les pharisiens et Jésus. Ce n'est pas biblique hein, ce que je vais dire, mais ça illustre un petit peu. Et ils viennent voir Jésus pour dire, mais Jésus, tout ce que tu dis sur la grâce, c'est vrai, nous on le sait, en fait, nous on le sait vraiment. Mais si tu le dis au peuple, ils vont faire n'importe quoi. Donc arrête de parler de la grâce, parlons de la loi, sinon ça va être le laisser aller. Et je crois que ça illustre bien quelque part la pensée assez classique de la religion. Il faut mettre des barrières, autrement on va faire n'importe quoi. Mais Paul dit non, c'est pas ça que l'on dit. Alors, donc, on va prendre un peu de hauteur maintenant pour essayer de voir tout cela. Donc voilà, la fin ne justifie pas les moyens. Okay. Alors, première chose qu'on peut dire par rapport à ces versets 1 à 8, c'est que Paul nous donne un exemple. Il faut utiliser son cerveau. Il a raisonné avec les Juifs. Il n'a pas dit, oh ben c'est comme ça. Non, il a essayé de raisonner. Un peu plus loin dans l'épître, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on doit avoir de l'intelligence pour raisonner. Et même Jésus, Matthieu 22, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. J'ai un livre que j'aime bien, bon, c'est un livre de théologie assez accessible, je ne sais pas si ça existe encore, ça s'appelle Frères, je ne veux pas que vous ignoriez, donc c'est un bon petit résumé de la théologie biblique. Et dans l'introduction, la préface, quelqu'un écrit ceci, et j'ai toujours trouvé une phrase qui me parle. Penser sainement est un art difficile. Penser tout court devient rare. Cependant, pour le chrétien, c'est indispensable. Et donc, je pense qu'il faut que l'on continue à bien réfléchir, à bien raisonner avec les gens qui sont autour de nous. On ne peut pas simplement dire oh non, c'est comme ça. On essaie de faire comprendre, on raisonne, on essaie de montrer les lacunes des pensées, on essaie de montrer la cohérence de la pensée biblique. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout ces questions du péché, c'est pas évident, hein? Donc, je sais pas si. Voilà. C'est la doctrine biblique. On avait déjà parlé de la corruption totale ou de la dépravation totale. Bon, je vais revenir à ça tout à l'heure, mais ce n'est pas la première fois que je le dis, mais je le redis parce que c'est important. Au moins trois choses. Beaucoup de gens autour de nous disent, l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. C'est fou qu'après tant de siècles, on continue à penser cela. On continue à penser que on va pouvoir résoudre les problèmes de l'humanité. Il suffit simplement de ceci, de cela, de changer le cap politique. Mais enfin, vous, c'est un peu l'actualité. On va changer le cap politique et on va changer de gouvernement, on va changer de parti, on va. Je me souviens, il y a bien des années, j'habitais un quartier un peu sensible à Nancy, et on a fait des réunions pour essayer de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc les citoyens étaient invités à discuter, toute une série de réunions avec les HLM, avec la ville de Nancy, comment on va faire pour améliorer les choses. Et au bout de deux, trois réunions, ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait repeindre les entrées. Mais c'était fou. Et tout le monde dit quand on va repeindre les entrées. Comme si on allait vraiment résoudre tous les problèmes. L'homme n'est pas bon. Autre chose que l'on dit assez souvent, ok, j'ai fait un peu de mal, mais ce n'est pas vraiment de ma faute. Hein. Il y a des circonstances atténuantes. C'est la faute de mes parents. Bon, je pensais que la faute de mes parents jusqu'à ce que mes enfants disent la même chose. Hein, c'est toujours la faute quelque part. Et bon, ou bien c'est la faute de mon professeur. Hein, il m'a pris en grippe, donc il me donne des mauvaises notes. Ou c'est la faute du patron, ou c'est la faute du gouvernement. C'est toujours la faute des autres. Ou bien, pour certaines philosophies, de toute façon, il n'y a pas vraiment de bien et de mal. Il n'y a pas vraiment d'absolu, ce sont des inventions humaines. Peut faire ce qu'on veut. Et je crois que j'ai cité récemment un professeur de philosophie que j'ai lu qui avait dit, ça c'est très bien dans la salle de classe, mais dire cela au milieu de l'autoroute, on peut traverser quand on veut. C'est chacun qui fait ce qu'il veut. Bon, on n'est pas dans la réalité. La réalité de la doctrine biblique, c'est la corruption totale. Avant de voir ce que cela veut dire, deux choses que cela ne veut pas dire. D'abord, cela ne veut pas dire que chaque être humain est complètement privé de la notion de bien et de mal et de toute rectitude morale. Les gens continuent parfois à faire de bonnes choses. Donc, dire la corruption totale ne veut pas dire qu'il n'y a jamais, jamais de bonnes choses qui se font. Heureusement. Il y a des associations qui luttent contre ceci, contre cela. Heureusement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rectitude morale. Et ça ne veut pas dire non plus que les êtres humains sont aussi corrompus qu'ils pourraient l'être. Heureusement que ce n'est pas le cas non plus. Il y a aussi de bons citoyens, de bons pères de famille. Quand on sort du métro, la plupart des gens tiennent la porte qu'on puisse passer. Donc il y a une certaine empathie qui est là. Donc ça, c'est vrai. Par contre, il y a trois choses qui sont vraies pour la corruption totale et que l'on va voir, en fait, c'est pas encore ça, que l'on va voir au verset 9 à 18. Trois choses. Que le péché concerne tout le monde, Donc le péché est universel. Ensuite, que l'on ne cherche pas Dieu. Et troisième chose, que tous les aspects de notre vie sont touchés par le péché. C'est ça que ça veut dire. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rectitude morale et que l'on est aussi corrompu que possible, mais ça veut dire que le péché est universel, que l'on ne cherche pas vraiment Dieu et que tous les aspects de notre vie sont touchés par le péché. Et Paul l'illustre du verset 10 jusqu'au verset 18 avec toute une suite de citations de l'Ancien Testament. Il ne cite que l'Ancien Testament. La plupart de ces citations sont tirées des psaumes, mais il y a aussi au moins une citation d'Ésaïe. Donc, d'abord, l'universalité. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, tous les êtres humains sont pécheurs. Deuxième chose, verset 11, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Et je trouve assez intéressant que dans les spiritualités très à la mode dans la postmodernité, que ce n'est pas vraiment une recherche de Dieu, c'est une recherche de mon bien-être. En fait, je le pratique parce que je veux me sentir bien, je veux me sentir zen, je veux me sentir relax, détendu, tout ce qu'on veut. Donc, on le cherche pour soi et non pas, c'est pas vraiment une recherche de Dieu. Et puis, la troisième chose, c'est que tous les aspects de notre vie sont touchés par le péché. Bon, cela, on le voit par la suite parce que du verset 13 au verset 18, Paul utilise des versets pour parler des différents aspects de l'être humain. Verset 13, « Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Tout ce qu'on fait est teinté quelque part par le péché. Donc, la conclusion de ce texte, les versets 19 à 20, c'est que si on reconnaît l'autorité de la loi, on n'a rien à dire. Même si, en réalité, je pense que ces versets peuvent s'appliquer à n'importe qui, et dans un sens, simplement lire la parole de Dieu, annoncer la loi de Dieu est le premier pas vers le salut. Les Juifs en particulier étaient au premier rang parce qu'ils connaissaient ces textes. Ils disaient, ces textes s'appliquent à moi. Donc, Paul dit, nous savons que tout ce que dit la loi, elle a dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. On ne peut plus rien dire. Si on est honnête, on ne peut plus rien dire. On sait qu'on est pécheur. Et par conséquent, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi, non seulement parce qu'on n'y arrive pas, mais ce n'était même pas la fonction de la loi. La fonction de la loi, l'objectif, quand tu as donné la loi, c'est que par la loi, que l'on puisse avoir la connaissance du péché. Et dès qu'on a la connaissance du péché, là, on peut passer au verset 21, mais maintenant. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu, par la croix. Donc, on arrive à la bonne nouvelle. On arrive à la bonne nouvelle. Mais il fallait quand même être lucide. Et je crois que de tous les êtres humains sur la terre, les chrétiens doivent être à la limite les plus lucides. Je pense que personne d'autre ne peut à la fois avoir un tel... Enfin, logiquement, je parle logiquement, je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas, mais en étant cohérent. Personne d'autre ne peut avoir un tel respect pour son prochain et aimer son prochain, parce qu'on sait qu'il est créé à l'image de Dieu, tout en disant c'est un pécheur. Et aucune autre religion, philosophie, n'arrive à joindre ces deux aspects-là. Donc, nous sommes en chemin pour Pâques. Donc, c'est le bon moment d'arriver au chapitre 3, verset 21.